Notre époque est marquée par un retour à la sauvagerie initiale des pauvres. Voilà qui tranche agréablement avec la période antérieure. Le mouvement ouvrier, dominé par les idées réformistes et staliniennes, encadré par les appareils bureaucratiques, avait presque partout réussi à civiliser la protestation des pauvres. L'intégration de l'ancien mouvement ouvrier dans la société civile est désormais totalement achevée. Dans les années 70, les travailleurs révoltés sont allés aussi loin qu'ils le pouvaient dans les limites du système existant. Leur lutte débordait sans cesse les consignes syndicales. Mais elles sont cependant presque toujours restées en porte-à-faux par rapport aux appareils syndicaux. Et ceux-ci ont pu concilier et manœuvrer avec assez de force pour finalement emporter cette guerre d'usure. La plupart des conflits importants de ces dernières années dans les entreprises ont été principalement défensifs et portaient contre les effets de la récente modernisation industrielle. Dans les années 70, les syndicats ne pouvaient pas se permettre sans risque de désavouer ouvertement les excès des travailleurs révoltés. Dans les années 80, ils ne peuvent plus se permettre de les cautionner. La liquidation de ces révoltes ouvrières s'est faite partout au nom du même principe. Avant, les syndicats faisaient appel à l'intérêt des travailleurs pour mettre fin à une grève. Maintenant, ils font appel à l'intérêt de l'entreprise. Dans cette période, les bureaucrates en arrivent à pouvoir discuter, ce qui pour les travailleurs était indiscutable dans les années 70. Ces appareils syndicaux se comportent à présent, et de façon systématique, en gestionnaire, se mêlant des affaires de l'entreprise. Le mouvement ouvrier se définissait ainsi. Il s'agissait de faire de la masse des travailleurs un sujet juridique collectif, défendant ses intérêts dans le cadre de la société civile. Les luttes des années 70 ont fait éclater tout cela. Les pauvres étant, alors, encore unis dans l'usine par des conditions de travail identiques, pouvaient constituer une force unique, qui s'exprimait dans les revendications de salaire anti-hiérarchique et le même rejet du travail. Absentéisme, coulage des cadences, sabotage. Contre cette force, le capitalisme a réagi de la sorte. Il a réintroduit les forces du marché comme seule référence. Il a entrepris également de réorganiser toute l'exploitation du travail, en exacerbant la concurrence entre les pauvres. Les syndicats, fondés sur la hiérarchie salariale et l'identification du travailleur à son entreprise, participent pleinement à l'organisation de cette concurrence. Ils ont de même largué les amarres avec le langage de l'ancien mouvement ouvrier, qu'ils remplacent par le jargon plus empirique des gestionnaires. La principale préoccupation des syndicats est seulement de ratifier juridiquement avec les patrons et l'État, ce qui est depuis longtemps entré dans la pratique. Par exemple, tout le baratin sur la flexibilité du temps de travail ou le SMIG. Il est désormais admis ouvertement que les syndicats, les hommes d'affaires et l'État parlent tous la même langue. L'époque est finie où les travailleurs pouvaient s'avancer très loin dans leur lutte en s'abritant plus ou moins derrière la couverture syndicale, obligeant leurs délégués à les suivre sous peine de débordements ouverts. Les médiations ayant pour tâche d'intégrer les travailleurs ont maintenant accompli un cycle complet. Les travailleurs sont à présent supposés suivre la même logique que leurs représentants et s'identifier entièrement au fonctionnement de leur entreprise. Mais ce progrès dans l'exploitation du travail a dû s'accompagner d'un conditionnement de la main-d'œuvre. Cette force unique des travailleurs révoltés ayant été brisée au début des années 80 au nom de la crise, les capitalistes peuvent imposer librement aux pauvres les conditions les plus draconiennes. Prendre les gens à la faim, en organisant le spectacle de la pénurie. Les gens se voient ainsi imposer des conditions de travail et de salaire impensables il y a 10 ans. La main-d'œuvre est tenue à pleine et entière disposition de l'employeur. C'est ce qu'on appelle par euphémisme syndical la flexibilité du travail. Heures supplémentaires non payées, travail le dimanche, baisse de salaire imposée par le chantage. Il arrive même à certaines entreprises en difficulté de faire appel à la participation volontaire des travailleurs pour qu'ils constituent un capital en versant tout ou partie de leur salaire. Tout ce qui rampe sur la terre est gouverné par les coûts. Jamais sous le règne du spectacle, le principe de l'argent ne s'était manifesté à ce point sous la forme de la pure nécessité. Jamais les gens n'avaient été aussi fermement rabaissés à leur état de nécessiteux. Il s'agit de remettre les pauvres à leur place. Il faut les faire saliver devant la toute-puissance de l'argent. Aujourd'hui en France, le fait d'avoir un boulot, même le plus sale et le plus mal payé, passe pour bien des gens comme une faveur céleste. Mais il se trouve quand même des gens pour cracher sur l'offrande. L'accumulation désormais irréversible de chômeurs à vie est bien sûr une conséquence directe de l'organisation plus rationnelle de l'exploitation. Mais bien plus qu'un résultat quantitatif, il s'agit de quelque chose de qualitatif. En grande partie, ce sont des jeunes qui ne peuvent pas accepter de subir les nouvelles conditions faites aux travailleurs. Si beaucoup de jeunes n'ont pas de boulot, c'est qu'ils n'en veulent pas. Et en même temps que les conditions de travail salariées sont de plus en plus ignobles, les conditions d'existence des chômeurs deviennent de plus en plus irrespirables. S'il est de plus en plus insupportable de travailler au vu des conditions de soumission accrues qui sévissent, il est aussi de plus en plus difficile de ne pas travailler. Ce retour au règne le plus sauvage de la nécessité a pour effet d'exacerber l'hostilité et la concurrence qui règlent de toute façon les rapports des pauvres entre eux dans la société. L'isolement et l'atomisation dominent incontestablement tout, et il en résulte une ambiance d'angoisse et d'oppression jamais atteinte jusque-là. Il n'y a désormais plus de médiation possible entre la misère des gens et la société civile. Les révoltes qui ont suivi 68 auront contraint l'ennemi à moderniser l'oppression et à rendre ainsi le monde encore plus invivable, la misère encore plus visible. La violence qui règne entre les pauvres et s'exerce parfois ouvertement entre eux est à la mesure de la violence des conditions qui leur sont faites. Au moment même où tous les pauvres subissent de plein fouet les règles de la guerre de tous contre tous, ils ne peuvent plus prétendre à une existence civile et deviennent alors absolument dangereux. Ce moment où la séparation a tout envahi montre aussi que les pauvres ne peuvent constituer un sujet juridique collectif, comme à l'époque de l'ex-mouvement ouvrier. Le moment où la bourgeoisie et l'État achèvent d'organiser la séparation qui définit les pauvres et leur rendent l'existence absolument invivable est aussi celui qui crée les conditions d'un renversement de situation. Ce qui sépare les gens et qui en fait précisément des pauvres est aussi ce qui les identifie. Les pauvres ne se connaissent pas, ils se reconnaissent.